Les informations avec Hélène Fromanti. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Antoine, bonsoir à toutes et à tous. Quel risque aux abords de Notre-Dame de Paris, alors que deux écoles ont fermé hier à cause de la pollution au plomb. La municipalité se veut rassurante. Dans ce journal, nous ferons le point avec Ilan Malka en direct de l'hôtel de ville de la capitale. Un reportage aussi à Rouen où des centaines de personnes ont demandé justice après le décès de Mamadou Barry. Ce jeune guidéen est mort des suites d'une agression présumée raciste. Nous parlerons chaleur, sécheresse et incendie alors que la moisson bat son plein. 1500 hectares de culture sont partis en fumée rien que dans la journée d'hier en France. Inédit, nous dira un responsable des sapeurs-pompiers. Avec Marie-Pierre Véraud, nous verrons que l'Union européenne est bien impuissante pour endiguer l'afflux des migrants en provenance de la Libye. Et puis on évoquera cette bataille remportée par l'État de Californie contre l'administration Trump dans la guerre sur les émissions de CO2. La mairie de Paris tente de rassurer élus et parents d'élèves après la fermeture de deux écoles hier dans le secteur de la cathédrale Notre-Dame. Ces établissements accueillaient jusqu'à maintenant des centres de loisirs pour les vacances, mais une pollution au plomb a été constatée 4 mois après l'incendie dans l'édifice religieux. Nous retrouvons tout de suite notre reporter Ilan Malka en direct depuis l'hôtel de ville de Paris. Ilan, bonjour.
Bonjour Hélène.
En milieu d'après-midi, le premier adjoint à la mairie de Paris s'est exprimé devant la presse. Face aux inquiétudes des uns et des autres, il a tenté de reprendre la main dans ce dossier.
Oui, le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, le dit et le répète. Aucune inquiétude à avoir, selon lui. Il assure respecter scrupuleusement les recommandations de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Alors que dit-elle, cette agence, elle appelle à une vigilance particulière concernant les établissements scolaires où sont relevés des taux de plomb à partir de 5000 microgrammes par mètre carré. À l'école de la rue Saint-Benoît, dans le 6e arrondissement, ce sont 7000 microgrammes par mètre carré qui ont été relevés. Voilà pourquoi l'établissement a été fermé par mesure de précaution. Il va subir un lavage approfondi et ne sera pas rouvert tant que le taux ne sera pas revenu à la normale. En attendant, le premier adjoint invite tous les enfants qui ont pu être concernés à faire des tests sanguins et à s'adresser à leur médecin, même s'il insiste encore une fois, pas de raison de s'inquiéter. Alors il y en a pourtant qui s'inquiètent, ce sont les maires d'arrondissement. Florence Berthoux, maire du 5e, estime qu'il faut aller plus loin dans la surveillance et mettre en place une cellule de veille. Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e, demande de son côté qu'on élargisse les contrôles bien au-delà des 800 mètres autour de Notre-Dame. Pour lui, ce sont tous les arrondissements centraux de Paris qui doivent être analysés et il faut notamment contrôler aussi les squats où les enfants ont joué. Réponse d'Emmanuel Grégoire, plutôt cinglante, je cite « Ceux qui veulent surfer sur les peurs font une erreur. Nous suivons scrupuleusement les recommandations de l'ARS. » Fin de citation.
Ilan Malka, avec les moyens techniques de Nicolas Mathias, rappelle que le chantier de la cathédrale Notre-Dame a également été suspendu hier. Plusieurs centaines de personnes, 1400 selon la police, rassemblées cet après-midi à Rouen en mémoire de Mamadou Barry, ce jeune enseignant-chercheur guinéen tué la semaine dernière dans la banlieue rouennaise. L'homme de 31 ans a été roué de coups en pleine rue et le parquet a retenu le caractère raciste de l'agression. Les manifestants sont venus réclamer justice. Le reportage de Christine Wurth.
Halte au racisme.
En tête de cortège, la femme de Mamadou Barry, soutenue par la famille et qui n'a pu prononcer que quelques faibles remerciements. Avant le départ, sa directrice de thèse et l'un de ses professeurs ont pris la parole et appelé à la tolérance et la fraternité.
Merci à tous d'être là et marchons en silence, sans haine, dans la dignité et dans la paix.
Sur les t-shirts, pancartes et banderoles, le même message.
Justice pour Mamadou.
Victime d'une agression raciste, martèle l'avocat de la famille, Jonas Haddad.
Lorsque son agresseur prononce les mots qu'il prononce avant de lui asséner les coups mortels, il est à l'origine d'un crime raciste.
De la dignité, mais beaucoup de colère dans le cortège.
Mamadou Barry a été tué à cause de sa peau noire en 2019. C'est honteux.
Et la solidarité des Rouennais aux côtés des associations guinéennes et des mouvements de lutte contre le racisme.
On a estimé qu'il fallait être présente et être solidaire de ce qui se passe parce que j'ai l'impression qu'il y a un regain quand même de la violence et du racisme en France.
Un cortège black-blanc-beurre, Zineb, 20 ans, d'origine algérienne, est venu rendre hommage à son professeur.
Et on est des frères, on ne peut pas comme ça diviser le peuple avec des crimes vraiment comme ça,
Franchement, c'est triste, ça nous a tous touchés. Et je pense que c'est le crime de trop, en fait.
Et le meurtrier présumé de Mamadou Barry avait été rapidement interpellé après les faits, mais sa garde à vue avait été levée à cause de ses antécédents psychiatriques. Le centre anti-cancer Gustave Roussy s'explique après le décès d'un enfant sous chimiothérapie dans ce prestigieux établissement de Villejuif dans le Val-de-Marne. Un drame qui remonte au mois de mai dernier, mais que l'on n'apprend que maintenant. La direction évoque une erreur humaine, mais de leur côté, des médecins parlent d'anomalies récurrentes et écrivent à la ministre de la Santé. Les précisions de Sarah Tuchérer.
L'enfant est mort en mai dernier, 15 jours après avoir subi une chimiothérapie à Gustave Roussy. Dans un courrier à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, des médecins et des professeurs exerçant à l'Institut replacent ce drame dans un contexte plus global. Selon eux, depuis 2 ans, anomalies et erreurs se multiplient lors des chimiothérapies. Le problème viendrait de la pharmacie, là où se préparent les poches administrées aux patients. La direction a réagi. Dans un communiqué, elle reconnaît qu'une erreur pharmaceutique est bien à l'origine du décès de l'enfant. Une enquête interne a été ouverte. Une réorganisation de la pharmacie est aussi en cours, l'idée étant d'automatiser au maximum la production. Enfin, un contrôle systématique de l'ensemble des poches a été instauré. Elles sont désormais toutes analysées par un laboratoire avant d'être mises à disposition des médecins.
Sarah Tuchérer pour France Culture. La France respire de nouveau aujourd'hui, mais les chaleurs extrêmes d'hier ont laissé des traces puisque d'importants feux se sont déclarés dans plusieurs régions. 6500 hectares de blé et de chaume ont brûlé en 24 heures, mobilisant 4000 sapeurs-pompiers. Une situation inédite liée aux températures, donc, et aussi à la sécheresse et aux activités de moissonnage. Écoutez les explications du porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le contrôleur général Marc Vermeulen.
Les sapeurs-pompiers ont vraiment été confrontés à des feux d'une rare virulence, parce que la problématique sur ces feux de blé, c'est qu'on peut avoir des changements de direction du vent qui peuvent être très rapides. Dans le département de l'Oise, ils ont même battu le triste record de 1986 sur lequel ils avaient fait un feu de 350 hectares. Là, ils ont fait un feu de 637 hectares. Il y a 2 camions feux de forêt qui ont été piégés. Ils ont mis en place un système d'autoprotection qui est normalement l'équipement de véhicules qui ont plus vocation à aller pour les feux de forêt dans le sud de la France. Maintenant, on voit que même en proche de la zone Île-de-France, on peut être confronté à ce genre de situation. Il va falloir qu'on regarde et qu'on observe la récurrence de ces phénomènes. On a des phénomènes, notamment dans le sud de la France, et ça monte un petit peu au fur et à mesure, qui deviennent de plus en plus récurrents, et surtout avec une intensité de plus en plus forte. C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre d'études qui sont menées pour renforcer la flotte aérienne des bombardiers d'eau, avec des porteurs qui transportent une plus grande capacité d'eau pour pouvoir être plus efficace et avoir un impact plus important sur le terrain. Mais également, ça veut dire que l'ensemble des départements, il va falloir qu'on regarde bien et qu'on observe et qu'on adapte nos besoins en fonction de la situation.
Marc Vermeulen avec Fiona Mogadam. Les anciens salariés de Whirlpool à Amiens dans la Somme seront fixés sur leur sort mardi prochain. Le tribunal de commerce a étudié aujourd'hui les 2 offres de reprise de l'entreprise WN, la société qui avait repris l'an dernier l'emblématique fabricant d'électroménagers et qui est désormais en redressement judiciaire. La meilleure offre propose de reprendre 44 des 160 salariés de WN. Que fait l'Union européenne pour gérer les flux migratoires en mer Méditerranée? Alors qu'une nouvelle tragédie est survenue hier soir, au moins 100 morts dans le naufrage de plusieurs embarcations au large des côtes libyennes, la question ressurgit. Marie-Pierre Véraud, bonsoir.
Bonsoir.
Chaque semaine, chaque mois, des hommes, des femmes, des enfants tentent de fuir l'enfer de la Libye. Après le drame d'hier, l'ONG Amnesty International appelle les dirigeants européens à répondre de manière courageuse. Mais en face, l'UE peine à s'accorder sur un mécanisme commun.
Oui, pour l'Europe, il est urgent d'attendre. Le dernier sommet à Malte, pourtant en première ligne aussi dans ces tragédies, n'a débouché que sur une mise en garde aux ONG qui opèrent en Méditerranée, accusées de faciliter le travail des passeurs, mais pas d'accord entre les 28 pour accueillir, puis répartir entre différents États membres les migrants sauvés en mer. Les naufrages qui se multiplient au large des côtes libyennes, en Méditerranée, frontière la plus dangereuse au monde, les camps de détention synonymes de lieux de torture, de viol, de raquettes, d'entassement dans des conditions de plus en plus précaires. Ce business des passeurs avec la complicité des gardes-côtes libyens, rien n'y fait. Les 28 n'ont toujours pas trouvé de mécanisme pérenne. Depuis la fermeture des ports italiens, c'est en fait la pagaille. On se souvient des errances en mer de différents navires de secours d'ONG chargés de migrants et ballottés d'un port à l'autre. L'Europe s'accorde en fait sur un point, empêcher les traversées de la Méditerranée. Elle a mis un terme à ses ses propres opérations de secours en mer et a délégué aux gardes-côtes libyens le contrôle des opérations. Ils ont reçu des vedettes et des aides de plusieurs dizaines de millions d'euros pour amener en Libye les migrants tentant la traversée. Les 28 dénoncent certes les camps de détention, mais faute d'accord sur des ports de débarquement en Europe, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de se revoir début septembre à La Valette. 14 États seraient prêts à s'engager pour accueillir des rescapés à l'initiative de la France. Mais le temps n'est toujours pas venu de passer à l'action. La crainte d'un appel d'air demeure. Pourtant, pour le directeur de l'Organisation internationale pour les migrations, il n'y a pas de crise des arrivées, mais une crise des morts.
Merci Marie-Pierre Véraud. Et dans ce contexte, 135 autres migrants secourus hier soir par des pêcheurs tunisiens et italiens sont eux bloqués sur un navire des gardes-côtes italiens. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, exige une nouvelle fois un accord de répartition des Européens avant de laisser ces migrants débarquer. Aux États-Unis, alors qu'une guerre judiciaire s'annonce entre le gouvernement de Donald Trump et les différents États sur la question des normes d'émission de CO2, la Californie vient de gagner une première bataille. L'État de l'Ouest américain vient en effet de conclure un accord avec 4 constructeurs automobiles. Ford, Honda, Volkswagen et BMW s'engagent à réduire volontairement les émissions de gaz à effet de serre de leurs véhicules. Ils vont produire des engins capables de consommer environ 5 litres au 100 en 2026, une réduction bien supérieure à ce que demande l'actuel président américain. À Los Angeles, les précisions de Loïc Piala.
Après son élection, les constructeurs automobiles ont demandé à Donald Trump de revoir à la baisse les règles fixées par l'administration Obama. D'ici 2025, leurs véhicules devaient consommer moins de 5 litres au 100, trop ambitieux à leurs yeux. Mais la Maison-Blanche est allée encore plus loin que ce que réclamait l'industrie, en gelant les niveaux d'émissions à ceux de 2020. Problème, la Californie, déterminée à défendre l'environnement, a le droit de fixer ses propres normes. Et ce que veulent à tout prix éviter les constructeurs, c'est d'avoir 2 niveaux d'émissions à travers les États-Unis, la garantie d'un enfer logistique. Surtout que l'État le plus riche et le plus peuplé du pays reste un territoire impossible à négliger. Alors Ford, Honda, BMW et Volkswagen, soit 30% du marché américain, ont donc négocié un accord secret, moins exigeant que ce qu'imposait Obama. Ils espèrent ainsi pousser la Maison-Blanche à négocier, mais l'administration Trump a déjà dénoncé une opération de communication.
Loïc Piala pour France Culture. En Russie, la défense des femmes victimes de violences domestiques est une question qui prend de l'ampleur. Les autorités ont été condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'absence de dispositions pénales réprimant ce type de violence dans le droit russe. Chaque année, on estime qu'un demi-million de femmes sont victimes de violences conjugales, dont certaines ont trouvé refuge dans un centre spécialisé à la périphérie de la capitale russe. À Moscou, le reportage de Jean-Didier Revoin.
À une trentaine de kilomètres au sud de Moscou, sur le territoire du monastère Novospassky, se trouve le centre d'accueil Kitej, réservé aux femmes en difficulté dont la plupart ont été battues par leurs conjoints. Une localisation qui offre bien des avantages, comme l'explique la directrice Aliona Estova.
Ça permet aux organes du gouvernement de nous contrôler. Il pourrait y avoir des gens agressifs, mais sur le territoire du monastère, ils ont tous peur de faire quelque chose parce que s'ils commettent des actes illégaux, ils ne seraient pas seulement perpétrés contre Kitej, mais aussi contre l'Église.
Le centre Kitej vient en aide aux femmes qui ne disposent pas d'un domicile légal à Moscou et qui de ce fait ne peuvent pas bénéficier des services de l'État. L'objectif est de leur permettre de se reconstruire au contact de la nature, du potager et des animaux du monastère. Depuis un mois, c'est ce que vit Ekaterina, 26 ans, dont le mari est en prison.
Ici, personne ne nous force à rien, ni à travailler, ni psychologiquement. Au contraire, ici, tout est calme. Ils nous donnent la possibilité de récupérer pour, à l'avenir, se sentir plein d'énergie.
Chaque année, plus d'une centaine de femmes transitent par le centre. Depuis 2017 et l'abrogation de la loi punissant les violences domestiques, la demande est en augmentation. Aliona Estova nous explique pourquoi.
C'est pire à cause de l'impunité. Elle incite ceux qui abusent à être violents parce qu'ils savent qu'ils n'écoperont que d'une amende équivalente à celle d'une voiture mal garée.
Pour remédier à cette situation, une quantité croissante de Russes se mobilise sur les réseaux sociaux. Ils publient des photoportraits grimés et portant des marques de coups pour inciter le Parlement à prendre cet automne des mesures drastiques contre les violences domestiques.
Reportage signé Jean-Didier Revoin. En Tunisie, les funérailles officielles du président Béji Caïd Essebsi, décédé hier à 92 ans, vont se dérouler demain dans le pays. Plusieurs dirigeants internationaux, dont Emmanuel Macron, seront présents. Et puis ce midi, dans le journal de France Culture, nous vous parlions du décès ce matin du journaliste et enquêteur français Claude Péan à l'âge de 81 ans. Sur France Culture, vous pouvez retrouver un entretien complet avec l'un de ses fidèles collaborateurs, l'auteur Laurent Laurent Ducastel. Un coup d'œil sur la météo. 27 départements sont toujours en vigilance orange aux orages. Demain, le temps sera pluvieux et localement orageux dans la matinée, du nord du pays jusqu'au sud-ouest. Des pluies orageuses aussi le matin, de Rhône-Alpes jusqu'aux Hauts-de-France, puis vers le nord-est l'après-midi. Sur les côtes méditerranéennes, ce sera plus calme malgré quelques nuages et des risques d'ondées, voire d'orages sur le golfe du Lion. Les températures seront comprises entre 12 et 22 degrés le matin, entre 20 et 32 degrés l'après-midi.